Il en faut de la patience pour construire son double. Nuit du 10 février 1972 au Toby Jug Pub à Tolworth, dans le sud-ouest de Londres. Un étrange messager venu des étoiles descend sur scène, cheveux rouges flamboyants, combinaison pailletée et maquillage d'extraterrestre. Il se présente comme un demi-dieu du rock, il prêche l'amour et la décadence dans un monde en perdition. Son prénom, Ziggy, une créature imaginée par la future icône David Bowie. Avec Ziggy Stardust, sa quête de persona scénique est enfin terminée. Il a rencontré son double. Ce jumeau, mon invité, l'a trouvé lui aussi à force de métamorphoses impressionnantes. Bonsoir, Bilal Hassani.
Bonsoir.
Vous vous êtes fait connaître à 15 ans dans The Voice Kids avant de représenter la France à l'Eurovision. Depuis, vous avez sorti plusieurs albums, Kingdom, Theorem et le plus petit dernier, L'Affreuse, explorant sans cesse de nouvelles métamorphoses artistiques. Vous êtes devenue une figure pop qui interroge les identités, les codes du corps et de la scène. Et vous vous préparez à une belle carrière de comédien. Et parce qu'on avait envie de parler avec vous du corps comme quelque chose que l'on peut modeler et contrôler, on a eu envie de vous présenter en troisième partie Guillaume Vallée, auteur de La Fabrique du Muscle. Avec lui, on va essayer de comprendre ce que la salle de sport dit de nous. À 18h30, comme tous les soirs, ce sera le Panorama Culture, au programme quand l'Irlande se fait l'allié culturel de la Palestine, le retour d'un rocker, du disco et une revue qui donne la rage. Alors oui, tirer ces haltères de 2 kilos achetés il y a 5 ans sur un coup de tête et qui prennent depuis la poussière, préparer le shaker de prot et les talons de 12 cm. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Bilal Hassani, vous avez créé un personnage scénique. Pourtant, vous avez décidé, dès le début, de garder votre prénom et votre nom de naissance. Pourquoi ? J'ai cru comprendre qu'il était question d'Oprah Winfrey, l'animatrice la plus célèbre des États-Unis.
Exactement. Oprah Winfrey, elle a une façon assez rigolote d'annoncer ses invités quand elle les rencontre, quand elle va faire ses interviews. Et à chaque fois, je trouvais ça assez cool de voir à quel point ça en jette un nom de scène quand c'est Oprah qui le dit. Et j'avais petit, parce que déjà tout petit, je rêvais d'être artiste, j'avais imaginé plein de noms de scènes et je les faisais comme ça, je les écrivais, je faisais ma signature et ça marchait pas. Et un jour, je me suis dit, bon, essaye Bilal Hassani, parce que c'est ton nom. En Oprah Winfrey, elle fait Bilal Hassani. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, ok, ça en jette, c'est ton nom, sois-en fier et garde-le.
Avant de parler de votre travail, Bilal Hassani, on passe au moment test, au moment queen de la plage. J'aimerais savoir quel vacancier vous êtes, c'est l'interview haute saison. Vos étés enfants, ils ressemblaient à quoi ?
Je partais souvent chez mon papa, qui lui habitait un peu à l'autre bout du monde. Donc dans un premier temps, c'était au Vietnam et puis après à Singapour.
Vous avez grandi avec votre maman en région parisienne et puis l'été, c'était chez le papa.
L'été, les vacances scolaires. Donc je faisais 5 mois dans l'année en Asie du Sud-Est.
Et voilà. Vous avez quel souvenir de ces périodes-là ?
C'était très humide, mais je passais de très bons moments. Je me rappelle qu'il y avait un peu une double culture parce que je faisais l'école d'été aussi là-bas, donc j'avais mes copains de là-bas. J'avais un peu
quoi l'école d'été ?
La summer school, l'école d'été, tu prends des cours l'été, voilà, okay. Avec une classe d'autres vacanciers qui ont souvent des parents qui sont aussi expatriés et tu continues de prendre des cours. Voilà.
C'est mais là moi, que j'étais... vous avez appris l'anglais ?
Ouais, okay. Entre autres.
Ce que vous détestez en vacances ou l'été ?
Ce que je déteste en vacances, c'est quand il y a un peu trop d'organisation pour de l'activité. Voilà.
Moi, j'aime bien me reposer. Vous n'êtes pas très guide Michelin.
Je peux me chauffer, mais à moindre mesure.
Okay.
C'est-à-dire, on peut pas se lever à 6 heures après s'être levé à 6 heures le jour d'avant pour une autre rando. C'est une rando sur les 10 jours. Et c'est
déjà bien. C'est déjà bien. L'odeur qui symbolise les vacances pour vous, Bilal Hassani?
Quand l'herbe mouillée un peu. Après, peut-être l'arrosage automatique ou quand tu mets le tuyau un peu pour nettoyer le côté de la piscine.
Votre plus belle love story d'été ?
Oh là là !
Il y en a eu beaucoup. Belle...
Non, oui, un petit peu. C'est vrai que moi, je suis très amour d'été. Ça s'est passé à l'île de Ré. Voilà.
Où vous allez très souvent avec votre bande d'amis.
Exactement.
Le plus beau souvenir de vacances ado ?
Le plus beau souvenir de vacances ado, je pense que quand je suis partie à Singapour avec deux de mes meilleurs amis, pour leur montrer un petit peu là où j'avais grandi, mais c'était la première fois que j'allais seule, il n'y avait même pas mon père là-bas, donc du coup on a juste kiffé. Et c'était marrant de revoir une destination où j'allais enfant, mais d'y aller là, ado, presque adulte, et de pouvoir faire mon propre kiff, mon propre parcours, quoi.
On va remonter dans le passé avec vous, Bilal Hassani, pour disséquer vos identités multiples. Mais avant ça, j'ai envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans. Le premier été de liberté, sans parents et avec un peu de sous, parfois. On est en 2019, les ados font taire leurs parents à grands coups de OK Boomer, Notre-Dame a pris feu. Tout le monde demande à Kevin quand est-ce qu'il va remettre des paillettes dans notre vie, mais il se passe beaucoup d'autres choses, écoutez bien.
Je sais ce qu'il faut qu'on fasse. Il suffit qu'on ait tous des gels douche différents.
Ouais, il faut aussi qu'on ait plusieurs lessives et plusieurs adoucissants.
C'est marrant. Faudrait que je me tape 4 lessives à chaque fois. Oh putain.
Non, c'est pas une question de lessive. C'est cet appart qui pue. Il faut partir de study et vite. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is
matte black. Got the bushes black to match. Riding on a horse. Greta Thunberg lance un appel à Donald Trump.
C'était cette nuit, peu après l'arrivée de la jeune Suédoise à New York, au terme de 15 jours de traversée de l'Atlantique à bord d'un voilier. Écoutez la science, a-t-elle demandé au président américain. Tu connais, faudra pas déconner, c'est AD qui taquine. Coco, joue pas le kéké, un comme caca.
Un peu survolté, un dos louche comme Blanca. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Tout le monde hurle au lieu de discuter. Il n'y a plus aucune bonne manière.
On a entendu un extrait de Parasite, Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, Greta Thunberg, PNL, un extrait de Joker, du film Joker. Vous vous rappelez de l'été de vos 20 ans, Bilal Hassani?
Très bien, oui. Bah, c'était, je venais de commencer ma carrière de chanteur, donc du coup, j'étais en concert partout.
Vous veniez de faire l'Eurovision, non?
Je sortais de l'Eurovision, exactement. Et on a enchaîné très très vite.
Donc pas de repos, beaucoup de boulot.
Ouais, énormément de boulot, mais j'en avais envie. Donc j'ai juste kiffé. À chaque fois qu'on me proposait d'aller chanter quelque part, j'y allais.
Vous avez fait des festivals?
Ouais, tout plein. On était partout, tout le temps. On faisait toutes les salles, on faisait les festivals, on faisait des plateaux radio, on faisait des séances de dédicaces. Moi, dès que je pouvais rencontrer le public, je le faisais. Donc j'ai passé l'été à faire ça.
Bah, très chouette. Le début de vos pas de star,
finalement. Un petit peu.
Avant de parler de vos débuts, justement, de votre passion pour les pop stars et de la création de votre double scénique, Bilal Hassani, on reste en 2019. Aya Nakamura défile en robe de soirée dans le clip de son nouveau single, Pookie.
Bébé veut du sale, allo, 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 million dollars, bébé tu veux ça. J'suis gang, oh game, boy ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, oh game, boy ne joue pas bang, bang, bang. Bla 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 pookie, ferme la porte à la pookie dans le side. Bla 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 pookie, ferme la porte à la pookie dans le side. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J'ai barré fort, là j'ai pas le time pour pas. J'ai barré fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding-dong. J'suis gang, or game. Boy, ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, or game. Boy, ne joue pas bang, bang, bang. Bla, 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 pookie. Ferme la porte à la pookie dans le side. Bla, 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 pookie. Ferme la porte à la pookie dans le side. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, tu veux ça. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, tu veux ça. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud là, oh. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud là. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça.
France Inter. Le mag de l'été.
From Kentwood, Louisiana, here is 10-year-old Britney Spears.
Avril 92, Britney Spears, 10 ans, participe à Star Search. C'est une future pop star qui le savait déjà, dès la maternelle. Un peu comme vous, Bilal, depuis que vous êtes petit, vous savez que vous voulez être une pop star. Vous avez même des rêves de gloire aux USA. À 8 ans, vous découvrez d'ailleurs que vos stars préférées, Britney Spears ou Michael Jackson, suivaient l'école à la maison. Et donc, vous demandez à votre maman si c'est possible d'être déscolarisée. Elle réagit comment ?
Elle hurle de rire. Elle ne me prend pas du tout au sérieux. Et oui, je me souviens lui avoir dit « Maman, il faut qu'on arrête l'école, il faut que je fasse l'école à la maison pour qu'on se concentre sur le vrai truc, là.
» Sur ma carrière.
Et elle m'a dit « Non, Bilal, on va pas faire ça. » Et on a passé un pacte où elle m'a dit « Tu passes le bac et après, on fait ce que tu veux. »
Vous parlez souvent de pop star. C'est quoi pour vous une pop star ? Comment la décrire et pourquoi ces figures-là vous fascinent ?
Je trouve ça très fort qu'un artiste sache être un super-héros comme ça. Il y a un truc avec le costume qui est identifiable, avec une musique qui essentiellement fait un câlin à son auditeur à chaque fois. La pop, je trouve que c'est un peu ça. Il y a
cette mythologie aussi.
Il y a la mythologie, c'est tu crées vraiment un univers autour de toi et tu peux, même en tant que fan, consommer que ça, tout ce monde autour de cette pop star. Et ça me nourrit depuis l'enfance, ça me fascine depuis
l'enfance. Quelle pop star vous fascinait par exemple ?
Quand j'étais tout petit, c'était Michael Jackson. J'étais obsédée, j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible, même pour moi, d'être si obsédée. Je voulais toujours en voir plus, toujours avoir plus de clips, de live et tout. Et y avait Michael, après plus tard un peu Gaga. Beaucoup.
Quand vous avez 15 ans, un camarade vous filme en train de chanter et envoie la vidéo à la production de The Voice Kids. Et ce qui est intéressant en parlant de mythe justement, c'est que vous hésitez à participer car votre persona n'est pas encore défini, votre personnage de scène. En fait, vous aviez déjà une identité. Comment vous pouvez nous décrire ce personnage que vous commenciez à peine à vous créer ?
C'était un elfe. Quand j'étais petit, je m'imaginais un elfe avec des cheveux très très longs qui descendaient jusqu'à mes chevilles. Et je me dessinais comme ça dans des carnets tous les jours et j'écrivais mon nom et j'écrivais des chansons et à côté je faisais toujours le petit dessin. Il y avait des lunettes, des grosses lunettes de soleil un peu bioniques et des longs cheveux. Parfois les oreilles en pointe et tout. Hein. J'aimais vraiment bien tout ce truc-là un peu éthéré, forêt et tout. Et j'étais là à l'école avec mes petites lunettes, mes petites chemises à carreaux et je me voyais pas du tout passer à la télé comme ça. Je disais non, faut que je me présente au monde, fini. Et finalement, j'ai pas surfusé. Je me suis dit, allez, vas-y, fais-le quand même.
Parce que pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, votre personnage sur scène a souvent une perruque aux cheveux très très longs, des talons, des robes très courtes, moulantes. Ça vient d'où tout cet univers-là, cet univers et cette volonté de transformation ?
J'ai l'impression que le personnage, il existe sur scène que comme ça parce que je l'ai toujours envisionné de la sorte. Après, dans les icônes que j'ai eues, il y a des icônes mode d'abord et ensuite, quand je deviens ado, des icônes queer et j'ai commencé à me documenter un peu en regardant des documentaires comme Paris is Burning qui parle de la scène underground queer de New York dans les années 70-80-90 après et donc les Club Kids et tout ça et en fait en regardant leur look ça m'a beaucoup inspiré et c'est de là que je puise un peu mon inspiration et pour mes looks.
En termes d'identité il y a aussi votre nom, on en a parlé, Bilal Hassani, donc c'est d'origine maghrébine et on vous a renvoyé plusieurs fois à cette identité quand vous présentez auprès de label, un directeur de label vous dit qu'il vous voit plus faire de la musique urbaine, donc c'est une expression quand même assez fourre-tout, on le sait maintenant. Cette identité, ce nom et ce prénom, est-ce que vous en avez souffert ? Comment vous êtes approprié cette identité-là ?
Je me suis toujours approprié mon nom. Je pense qu'il y a quelque chose de très riche dans le fait d'être fier de son nom, de son origine, de d'où on vient. Et donc, du coup, je ne le prends jamais comme un handicap. Et même si parfois, on m'a un peu limité, on a essayé de me poser poser des barrières, moi je les casse un peu. Je me dis non, ça n'existe pas. Tout ce qui est réel, c'est ce que je décide qui est réel. Voilà.
Vous vous lancez sur YouTube en 2015 et puis viennent les reprises, les covers et puis à l'Eurovision. En 2019, vous représentez la France avec le morceau Roi. Vous aviez le choix, c'est ce que vous dites souvent avant l'Eurovision, entre une musique un peu niche qui vise par exemple une communauté et vous avez finalement décidé de vous lancer dans ce concours qui est très populaire. Pourquoi ?
Ben, je trouvais que c'était important de présenter une personne comme moi pour tout le monde. J'avais envie de directement arriver dans le foyer parce que je trouvais ça important de voir peut-être ressortir des profils comme le mien qui sont souvent underground, un petit peu plus dans le souterrain ou parfois sinon très parisien. J'avais envie que toute une France me voie.
D'être dans le salon des gens.
Voilà, pour qu'elle comprenne qu'on existe, que j'existe et qu'on est plein en fait comme moi et je trouvais ça marrant d'ouvrir cette porte avec l'Eurovision parce que l'idée de représenter tout le pays, je trouvais ça assez rigolo.
Et commence alors une grande promo et avec elle des polémiques chargées d'homophobie, de racisme. Votre image et votre identité, votre corps même, ils deviennent ils deviennent publics en fait et ils sont instrumentalisés par des politiques tant à droite qu'à gauche. Est-ce que vous avez senti qu'on vous dépossédait de votre identité ? Comment vous avez vécu ce ballottement à ce moment-là ?
On a essayé, oui, un peu de me sortir de moi et d'utiliser, de m'utiliser en tandem, en totem un peu pour plein de causes, de situations et tout. C'est vrai qu'à 18-19 ans, c'était très perturbant, que j'avais pas du tout le contrôle sur les propos tenus et que venant d'Internet, où j'avais toujours utilisé ma plateforme moi-même, là c'était un peu étourdissant.
Le 9 août, vous avez participé à la Pride de Montréal, on écoute. Vous êtes devenu un porte-étendard aussi de la communauté LGBT+, jusqu'à parfois en avoir marre qu'on vous ramène toujours à cette part de votre identité.
Ça dépend à quel niveau.
C'est ça. Alors dites-moi, parce que j'ai vu dans une interview que vous disiez que cette question sur l'identité queer parfois vous étouffait un peu.
En fait, ça dépend qui me la pose, parce que moi je suis très fière d'être une personne queer. Je suis très fière d'appartenir à la communauté LGBTQIA+ et de la défendre. C'est une belle chose, mais j'ai l'impression de parfois ne pas avoir peut-être les épaules pour assumer tout ce qui advient d'être cette personne-là. Mm-hmm. Et ça peut être parfois, oui, étourdissant, un peu étouffant de devoir tenir le bon discours, avoir le bon mot dans toutes les pièces où je vais. Et parfois, je peux être dans une pièce où ça va pas du tout parce que je vais être confrontée à un interlocuteur qui ne comprend pas. Et de défendre ça, parfois je me dis, en fait, c'est quoi, parle-moi de mon disque plutôt, ça ira.
Oui, c'est ça, c'est que ça peut éluder aussi votre musique. On va parler de votre rapport au corps et à la métamorphose, Bilal, mais d'abord un petit panorama de la culture. Ça sera après une autre pop star à l'ascension fulgurante, Chappell Roan, chante Naked in Manhattan.
George. lips are mine. Could go to hell, but we'll probably be fine. I know you want it, baby, you can have it. Oh, I've never done it. Make it in Manhattan. Touch me, baby.
Touch me, touch me, touch me, touch me.
Touch me, baby.
Make it in Manhattan.
Touch me, baby.
Touch me, touch me, touch me, touch me.
Touch me, baby.
Make it in Manhattan.
Hair clips and lip gloss. French kiss.
Française venue du Midwest, c'était Chappell Roan qui a ouvert Rock en scène hier avec son album The Rise and Fall of a Midwest Princess.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h34, le mag de l'été passe en mode vigie culturelle. C'est le panorama.
Panneau.
Oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
Pour la première fois hier, à Londres, le gouvernement britannique a reconnu être entré en contact avec l'armée républicaine irlandaise, l'IRA. Des rencontres avec échange de messages auraient eu lieu à plusieurs reprises, mais pour le moment, on ne parle pas encore de négociations dans la mesure où la branche politique de l'organisation terroriste, le Sinn Féin, n'a pas condamné la violence.
La machine à best-seller Sally Rooney avec ses romans Normal People ou Intermezzo défraie la chronique depuis une semaine dans une tribune. L'Irlandaise a annoncé qu'elle allait reverser certains de ses droits d'auteur à l'organisation britannique récemment interdite Palestine Action. Selon les médias, elle risque d'être arrêtée au Royaume-Uni en vertu de la loi antiterroriste. Il faut dire que l'Irlande et la Palestine sont liées par une mémoire commune. Les Irlandais comparent la famine du 19e siècle avec le blocus et les privations à Gaza. La partition imposée à l'Irlande en 1921 leur rappelle celle imposée à la Palestine en 1947. Et dans les années 60, les indépendantistes de l'IRA et de l'Organisation de Libération de la Palestine ont même noué des contacts. Avec ce geste, l'autrice Sally Rooney souligne que l'Irlande reste le soutien le plus affirmé de la cause palestinienne en Europe. Cap sur l'air iodé de Sainte pour notre événement culturel du jour, le festival Transatlantique lève l'ancre ce soir et fait dialoguer culture québécoise et française par-delà l'océan. Sortez votre jean slim et votre perfecto pour applaudir l'inoxydable Peter Doherty, ex-Libertines et Baby Shambles, devenu troubadour rock folk attendrissant, et laissez-vous emporter par la pop aquatique de François and the Atlas Mountains, une vague d'émotions garantie en Charente-Maritime. Le transatlantique, c'est jusqu'à samedi soir.
Ça marche pas vraiment la propagande en Iran, hein. Mais les gens en Iran sont tellement dégoûtés par ça. Ils ont tellement vu ça au télé, au partout dans le monde. Les enfants à l'école, on a l'éducation de propagande. On a une vie de propagande en Iran. Et on est tellement... On peut sentir c'est quoi la propagande. Et dès qu'il y a quelque chose, il y a dehors de propagande, c'est ridicule. Ça marche pas.
Place à notre objet culturel du jour, c'est une revue avec une marraine d'exception, l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Le nouveau numéro de la revue indépendante Cometa est sorti en kiosque, intitulé « Guide de survie dans un monde sans démocratie ». On y lit des récits poignants venus d'Ukraine et des enquêtes glaçantes comme ces soldats israéliens qui posent pour des applis de rencontres au cœur des ruines de Gaza. Un journal à offrir, à soutenir, à dévorer. Lire Cometa, c'est déjà résister.
I think it was 69, there was a stone wall
En 69, il y avait eu les émeutes de Stonewall à New York, qui marquent le début des luttes gays, des gay pride et de ces manifs qui sont devenus aujourd'hui internationales. C'était aussi l'époque des débuts des mouvements féministes et du mouvement pour les droits civiques dans cette Amérique, en pleine mutation. Alors, quand la disco est arrivée, c'était comme un appel à aller faire la fête tous ensemble pour tous ces mouvements.
Le disco n'est pas qu'une fièvre légère des années 70, il raconte aussi lutte sociale et émancipation. Notre rattrapage culturel du jour, c'est la géniale série LSD Discothérapie signée France Culture. 5 épisodes qui replongent dans les racines d'un mouvement culturel, du gospel noir aux émeutes de Stonewall en 69. Studio 54 à New York, Le Palace à Paris, paillettes, drogues et nuits sans fin deviennent ses symboles. L'occasion de frotter nos oreilles aux 120 BPM, au rythme en 4 temps et aux hymnes cultes signés Donna Summer, ou Gloria Gaynor. La révolution se fait aussi sous les reflets d'une boule à facettes. On est toujours avec vous, Bilal Hassani. On vient de vous entendre interpréter Roi en live. Vous partez pour votre première tournée en 2019, qui s'appelait le Kingdom Tour. Concrètement, comment elle se passe, votre métamorphose, avant de rentrer sur scène? Ça prend combien de temps, ce changement d'apparence et puis de mentalité aussi?
Ça prend 2 heures de préparation. Donc, c'est assez long, mais c'est chouette parce que dedans, on a réussi à faire, avec les années, faire rentrer plein d'étapes qui vont de la création de contenu un petit peu au tout début, la chauffe vocale ensuite. Après, il y a un vrai temps calme où je médite parce que littéralement, je n'ai rien à faire à part attendre. Et à ce moment-là, la transformation avance suffisamment pour que quand j'ouvre les yeux de cette dite méditation, je ne ressemble plus à la personne que j'étais au début. Et donc ça crée le switch, ça me sépare un petit peu de mon quotidien, de la personne que je suis le reste du temps, et je deviens l'artiste prêt pour la scène.
Comment vous pouvez nous définir cet artiste sur scène? C'est quoi son identité, au-delà du visuel?
Il y a quelque chose de très généreux. Je suis très généreux sur scène. J'ai envie d'offrir au public une expérience, on va dire, un peu singulière, qui sorte un peu des clous de ce qu'ils attendent d'un concert. Donc toujours, je veux proposer le petit truc en plus. Donc je vais danser, je vais chanter, je vais jouer des instruments. On va mélanger toutes ces choses-là, mais j'aime aussi beaucoup faire la curation. L'une des parties qui m'excite le plus dans la création d'un concert, c'est de faire la setlist pour voir un peu comment est-ce que je peux plonger les gens dans différentes humeurs. Et puis ça chante très très fort à fond, et ça danse très très fort à fond aussi.
Perruque, maquillage, talons de parfois très haut, très très haut.
Oui.
Derrière toute cette flamboyance, il y a un peu de souffrance physique. Est-ce qu'il faut souffrir pour se métamorphoser, Bilal Hassani?
Pas du tout, non.
C'est que du bonheur.
C'est que du bonheur. En vrai, c'est que du kiff, parce que je danse en talons depuis que j'ai genre 13 ans, et en courant aussi, en courant à talons, donc j'ai habitué mon pied aussi. J'ai fait le conservatoire, donc j'ai fait de la danse classique, où là, il fallait souffrir pour être bon, pour de vrai, de vrai, de vrai. Donc, juste mettre mes talons et ma 4 suites, ma combinaison, ça va.
Vous venez de parler de la danse, vous avez participé à Danser avec les stars il y a quelques années. Vous étiez le premier homme à demander à danser avec un homme, à avoir un partenaire du même genre. Comment vous travaillez votre corps pour la danse, justement? Ça demande une énergie et une force physique assez impressionnante. Comment vous faites? Comment vous entretenez votre corps?
Je fais beaucoup de sport. Je vais tous les jours à la salle.
Ça, on va en reparler.
Voilà, donc du coup, non mais c'est bien, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, je vais à la salle et puis je fais beaucoup de cardio. Je fais beaucoup de cardio surtout pour tenir. Parce que sur scène, quand le truc qui est le plus important, c'est le stamina, c'est de pouvoir tenir en chantant et en dansant sans s'essouffler. Et donc du coup, je fais beaucoup de cardio. Je fais du dynamo. Du vélo.
Oui, voilà. Du vélo dans le noir. Je fais partie de cette secte également. Votre corps, d'accord, mais votre voix aussi, c'est un instrument de travail. Comment vous en prenez soin?
Ben là, j'en ai pas pris soin beaucoup. Je sais pas si vous entendez, mais en temps normal.
C'est peut-être qu'en scène qui vous a épuisé.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est surtout que je suis en vacances. Mais quand je suis pas en vacances, ben c'est un rythme assidu de chauffe vocale, parce que c'est un muscle aussi. Donc c'est de la chauffe tous les jours, même quand c'est des jours où je ne chante pas. Je me réveille, je fais 20 minutes avec la chauffe que j'ai enregistrée dans mon téléphone par ma prof.
On a parlé de l'Eurovision et du déferlement qui a pu avoir de critiques par rapport à votre participation. Si on revient à l'image publique, justement, vous inspirez pas mal de haine. En 2023, vous êtes contrainte d'annuler un concert à Metz prévu dans une basilique désacralisée après des menaces d'intégristes. Est-ce que, à ce moment-là, vous êtes aussi à nouveau senti dépossédé de votre image? Comment vous avez réagi?
Là, oui, c'était assez affolant. On n'a pas du tout compris cette polémique quand elle est tombée. On était dans un lieu désacralisé depuis 500 ans, où il y a des concerts tout le temps, donc on ne comprenait pas parce que ça ne posait jamais problème. Et donc, on n'est pas bête, on sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Et de le réaliser encore en 2023, que c'était encore d'actualité, que finalement, peut-être qu'il y avait un rebond un petit peu de tout ce truc un peu hyper... fasciste presque, ça fait un peu flipper. Mais on s'en sort parce que toujours il y a de l'espoir quand on lit en ligne, quand on voit dans la vraie vie les gens qui existent dans le réel, ils représentent pas la majorité ces fous-là. Donc on s'accroche un peu à l'humanité qui reste et il en reste encore beaucoup.
Et il en reste beaucoup dans un film d'ailleurs auquel vous avez participé qui s'appelle Les Reines du Drame, oui. Sorti cette année, signé Alexis Langlois sur la télé-réalité. Il y a plein de références dans ce film qui est formidable. Il a été sélectionné à Cannes. Parlez-nous du personnage que vous incarnez et de la manière dont vous avez abordé ce rôle et cette transformation du coup.
Grosse transformation pour Stevie Shady parce que pendant la
donc le nom du personnage film,
c'est, voilà le nom de mon perso qui pendant une grosse partie du film a 60 ans, donc du coup c'est des prothèses et une vraie transformation physique mais aussi une préparation au corps pendant on a eu 10 mois de prépa de répétition et c'est un personnage, c'est l'antagoniste, c'est un grand fan d'une chanteuse qui va la stalker en fait, la harceler et je suis pas un méchant donc du coup de jouer un méchant c'était assez spécial et c'est aussi un peu un hater donc il a fallu que je me mette dans la peau de peut-être beaucoup des profils anonymes qui m'écrivent un peu tous les jours. Donc dans la recherche, je suis allé regarder dans mes commentaires, aller regarder dans les vidéos, même parfois que je reçois sur Instagram et tout, de gens un peu méchants. Et ça a un peu nourri le personnage. Il y avait quelque chose d'assez satisfaisant dans ça, justement, de pouvoir passer de l'autre côté dans le jeu. Et qui m'a un peu fait peut-être pas comprendre, mais moi j'ai un peu mis la peau du méchant et... Ça m'a fait tout drôle.
Et vous continuez d'ailleurs, vous travaillez sur un autre film, il me semble.
Alors, il y a Nino dans la nuit, oui, de Laurent Micheli, qui sortira à la rentrée prochaine, au tout début de l'année prochaine, 2026. Et il y en a un autre que je tourne, où on fait des chouettes films. Là, en
donc, d'autres transformations à venir. Et d'ailleurs, en enquêtant, j'ai appris que vous passiez pas mal de temps à la salle de sport
ouais.
pour un des rôles, c'est
ça ? Exactement.
Vous avez entamé une transformation. Mais ça se voit, vous avez des muscles incroyables.
Un petit peu, ouais. Bah, c'était de base pour le film, ensuite j'ai pris goût un petit peu parce qu'il y a l'aspect un peu thérapeutique et le seul avec soi. D'être tout seul dans la salle comme ça, faire son truc, ça me fait du bien.
Et parce que vous n'êtes pas du tout le seul à enchaîner burpees, hip thrust et développé couché, on a eu envie de vous présenter Guillaume Vallée, chercheur, il va nous expliquer pourquoi la fabrique du muscle est devenue une obsession contemporaine. On reprend après Damso qui cherche la paix dans Qui m'a demandé sur France Inter.
J'ai du mal à parler, j'ai tellement serré les dents. J'ai vécu des choses atroces, j'connais la douleur des gens. J'cherche la paix un peu partout, guidé par le vent. Pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Elles m'ont dit tu connais rien à la souffrance, celle que le temps ne guérit pas. Quand l'âme est blessée sur le chemin, ça laisse des traces depuis l'enfance. Et la mémoire n'a que le choix d'y repenser, repenser, repenser. Moi j'comprends pas pourquoi j'suis né, j'suis dans le bleu. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trou? Il fallait savoir déjà est-ce que vous l'aimez. Vous êtes bien énorme et qui m'a demandé ma permission de venir au monde. Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. La vie de rêve, la vie de Tony Braxton. Tony.
Les mauvais choix font que je déconne. Son bras petit feu, le désespoir résonne. Tant d'innocents payent pour que l'Occident règne sur les consciences saines, puis de confiance. Les conséquences saines de la méfiance saine, les cœurs mis en scène qui innovent.
Qui m'a demandé ma permission de venir en mort? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir? Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. Hey, la vie de rêve, la vie de...
C'était Damso sur Qui m'a demandé. Pour en savoir plus sur les coulisses de son ultime album, allez écouter son titre à titre disponible sur l'appli Radio France.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent, je suis toujours avec vous, Bilal Hassani. On a parlé de la construction de votre image d'artiste et nous avons été rejoints par Guillaume Vallée. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences économiques et vous avez publié La fabrique du muscle aux éditions L'Échappée. Vous y explorez la musculation comme pratique généralisée, reflet de l'hypercapitalisme. Et vous analysez la prolifération des salles de sport, l'omniprésence des régimes protéinés et la présentation du corps musclé comme capital identitaire. Alors vous décrivez dans votre livre une véritable démocratisation de la salle de sport. Elle est plus du tout réservée qu'aux passionnés. Elle est devenue une pratique de masse même. Alors, à quel point ?
Bah, c'est devenu une pratique de masse parce que quand on voit le nombre de pratiquants qui s'entraînent régulièrement dans les salles, à peu près plus de 6 millions en France de façon régulière, donc c'est quand même assez conséquent. Dans 5 500, 6 000 salles, là aussi le chiffre n'a fait que croître ces dernières années. Si on y rajoute aussi les personnes qui pratiquent à domicile, on voit qu'il y a quand même tout un ensemble de personnes, quelles que soient les catégories sociales, quel que soit le genre, qui s'intéressent à cette idée de construire du muscle, d'aller à la salle, de connaître cet univers. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, s'est vraiment massifié à partir du milieu des années 2010, en particulier en lien avec le développement des réseaux sociaux.
Mais justement, en quoi les réseaux sociaux ont un impact sur la construction du muscle et sur le muscle aussi comme norme esthétique ?
Alors, pour moi, il y en a deux, on va dire, deux principaux. Hein. Du côté, si on divise un petit peu les choses comme ça, du côté de la consommation du corps, ceux qui sont vraiment intéressés par être dans le loisir, par l'idée de construire du muscle, il y a vraiment une démultiplication des désirs parce que il y a de plus en plus de modèles qui s'affichent avec un corps musclé, avec des programmes d'entraînement, une certaine hygiène de vie, parce que c'est pas que la production du muscle esthétique, je dirais, il y a tout ce qui renvoie aussi à une façon d'organiser sa vie, une façon de s'entreprendre qui parle beaucoup, en particulier chez les jeunes aujourd'hui. Donc ça marque et puis ça donne des modèles, des références qui font qu'on peut être tout le temps dans l'instantanéité, tout le temps dans une nouvelle référence et je dirais mondialisée. On n'a pas que des modèles français. Et puis du côté de l'offre, du côté de la production, on va dire, il y a aussi un appel important pour espérer être un entrepreneur du corps, c'est-à-dire un influenceur, un coach, quelqu'un qui va réussir à connaître la mobilité sociale grâce à un projet du corps qu'il réussirait. Et ça, je pense que ça a attiré aussi beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, encore une fois, qui voient dans le corps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une ressource qu'on peut transformer en capital et puis valoriser à différents égards.
Guillaume Vallée, vous soulignez qu'il existe une dimension presque ouvrière dans le bodybuilding, un travail physique intense, très ordonné. Pourquoi vous construisez ce parallèle sur ce qui se passe dans les salles de sport, j'entends ?
Parce que moi, ce qui m'a toujours fasciné dans les salles de sport, donc je pratique moi-même depuis plus de 27 ans, j'ai toujours trouvé fascinant cette culture du travail qui était vraiment présente dans les salles, alors qu'on peut voir à travers l'organisation de l'espace, des machines et des machines spécialisées avec des îlots, comme dans des entreprises, d'où une des significations du titre de mon livre, La Fabrique du Muscle, hein, c'est ce lieu spécifique où on va produire du muscle, on va produire de la matière, et le lieu est donc organisé spécifiquement autour de l'idée du travail. Ça, c'était un point très important. Et puis, au-delà de l'organisation de la salle, ce rapport au corps que vont avoir les individus, avec cette impression qu'en travaillant le muscle, il se transforme, en fait. Alors certes, il transforme une matière, et une matière qui est facilement visible. Si on s'entraîne régulièrement, si on est assez assidu, on peut voir assez rapidement les premiers résultats. Mais aussi, finalement, une transformation, je dirais, de l'être plus profond. On a l'impression de devenir quelqu'un d'autre en travaillant son muscle. Et pour moi, c'est là que le lien existe avec ces sociétés capitalistes qui nous façonnent, qui nous a façonnés et qui nous façonnera encore dans le futur. Parce que le travail renvoie à l'idée de la souffrance, le travail renvoie à l'idée du profit, le travail renvoie à l'idée de la distinction. Et ça, je pense que ça marque beaucoup les personnes qui veulent souffrir à la salle. Parce que, en fait, quand vous allez à la salle, non seulement vous devez apprécier la douleur, mais vous allez la rechercher.
Oui, et puis la salle, c'est cet état d'esprit, ce qu'on donne pas juste à la salle de sport. Il y a tout, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de contenu au sujet de régime protéiné, sur toute l'alimentation. On va avoir aussi des montres connectées on ramène en fait la salle de sport chez nous. C'est tout un état d'esprit.
Tout à fait, c'est tout un état d'esprit, c'est une philosophie de vie. Ce projet vous accompagne en permanence, dès le lever jusqu'au coucher et même pendant la nuit. Vous devez organiser, rythmer votre journée en fonction de vos objectifs, et ça suppose un contrôle de la nutrition, un contrôle de vos activités, en fait une entrée dans ce qu'on appelle sociologiquement dans une carrière où vous devez sans cesse renforcer votre engagement et faire en sorte de vous discipliner à partir de cette activité qui devient au cœur de votre existence.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de côté ouvrier prolétaire dans ces salles de sport. Mais aujourd'hui, la musculation, elle s'est complètement gentrifiée. On a même une polarisation des offres avec des salles de sport qui sont très, très low cost, très peu chères, et de l'autre côté, des salles de sport ultra chères, très premium. Qu'est-ce que ça raconte, cette polarisation ?
Alors, bien sûr que dans le livre et dans mes différentes études, je fais référence à ce parallèle avec, le mouvement ouvrier, cette culture ouvrière du corps, hein, que Bourdieu avait déjà beaucoup investigué à son époque. Et pendant longtemps, le bodybuilding ou les sports de force où le muscle est directement mis en avant étaient très marqués par cette culture ouvrière. Et c'est vrai que dans le livre, je fais ce parallèle-là. Mais aujourd'hui, la pratique, elle est tellement massifiée, elle est tellement diffusée au sein de la société qu'on ne peut pas se cantonner simplement en disant ce sont des personnes d'origine populaire qui pratiquent ce sport. Vous avez raison, on voit que les cadres s'y intéressent de plus en plus. Il y a une plus grande mixité aussi de genre, par exemple. Il y a une entrée dans la pratique de plus en plus tôt. Bref, vraiment une pratique très diffuse. Et c'est clair que malgré cette diffusion large, en fait, c'est là que des distinctions apparaissent. Quand vous faisiez référence à la culture ouvrière, oui, moi, dans mes travaux, je mettais en parallèle le sens du travail professionnel avec le sens du travail au sein de la salle. Parce que le travail professionnel, pour certains, ne faisant pas sens, le résultat n'étant pas présent, ou l'organisation classique du travail n'amenant pas des bénéfices particuliers pour les individus, ils ont l'impression de retrouver dans le travail du corps une essence de travail, comme Marx l'avait décrit, où on maîtrise le processus de production, on peut façonner son plan de production comme on l'entend. Donc ça parle beaucoup, en particulier pour les ouvriers. Mais chez les cadres, à l'inverse, on avait plutôt ce que j'appelle le modèle de la complémentarité, où le fait d'être performant dans son corps, ça renvoie à l'idée d'une maîtrise, à l'idée d'une certaine forme de flexibilité, à une organisation et un contrôle plus largement qui sont très importants aujourd'hui dans le monde du travail, où on affiche la nécessité d'avoir une carrière qui va évoluer, où la présentation de soi est devenue déterminante. Je terminerai simplement ma réponse en ajoutant que dans le livre, je le développe bien, c'est moins le bodybuilding en tant que tel aujourd'hui qui fascine que l'idée de construire un muscle quand même en mouvement, l'idée d'un muscle qui est peut-être moins massif, mais qui est beaucoup plus adaptable, parce que c'est là que je fais référence à ce que j'appelle le capitalisme des vulnérabilités. Il faut qu'individuellement on s'adapte aux vulnérabilités de notre temps.
Pour terminer, j'aimerais discuter de ça avec vous, Bilal Hassani. Ce rapport au corps, ça peut être un contrôle, mais l'injonction du muscle, elle est particulièrement présente dans la communauté gay. Le journaliste Thibault Lambert raconte dans une enquête passionnante ce que Grindr a fait de nous, que cette appli de rencontre hyper puissante dans la communauté homosexuelle participe aussi à cet impératif du muscle. Comment comment vous vivez, vous, cette pression du corps, parce que vous êtes une personnalité publique et vous faites partie aussi de cette communauté-là?
Bah, pour la partie communauté, moi, je me catégorise depuis toujours dans la partie de la communauté qui est un peu plus femme, donc efféminée. Et donc, du coup, j'ai jamais trop été régie par ces règles-là, un peu du muscle, du masque format, de ces garçons comme ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai réalisé le poids, en fait, que ça avait sur nos communautés. Et maintenant, pour la partie publique, je dirais que oui, il est important je surveille quand même un petit peu parce que je suis toujours sur les écrans, j'apparais et voilà, j'essaie de faire un petit peu gaffe sans trop que ça devienne étourdissant, sans trop perdre la tête.
On aimerait Guillaume Vallée, Bilal Hassani poursuivre cette discussion, mais cette émission touche à sa fin. Les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est mieux. On met quoi dans la valise pour cette dernière ligne droite de vacances? Bilal Hassani, l'accessoire mode de votre été qui ne vous a pas lâché.
Merci beaucoup, tu m'as dit quoi?
L'accessoire mode de votre été que vous les avez...
Le Octopussy, ça s'appelle. C'est genre le Octobody, c'est un truc où tu peux scotcher ton téléphone contre les vitres et tout et tout.
Donc ça permet de faire des vidéos.
Et on appelait exclure les gens.
Guillaume Vallée, l'essai sur le corps, le livre sur le corps qui vous a transformé.
Ah, moi j'ai beaucoup aimé Le corps extrême de Patrick Baudry, qui avait été écrit en 1991, mais je trouve qu'il est très d'actualité parce qu'il l'interroge sur la quête du sens à travers le corps aujourd'hui.
Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France. Évidemment, merci à tous les deux. Bilal Hassani, votre album Piano Voix L'Affreuse est disponible sur toutes les plateformes et on vous retrouve en janvier 2026 à l'affiche du film de Laurent Micheli, Nino dans la nuit. Guillaume Vallée, merci encore. Votre essai à la fabrique du Muscle, publié chez L'Échappée, est disponible en librairie et il est passionnant. Joyeux et joli été indien à tous les deux. C'était le Mac de l'été avec Louise Tempero, Tarana Touri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission. Etienne Kenel à la réalisation, assistée de Yann Ozaman, et à la technique, Rémi Sistiaga.